Merci beaucoup de l'invitation et de ce début de discussion. Simone Veil cite à sa manière, et d'ailleurs légèrement modifiée, assez régulièrement l'encyclique de Pie XI du 15 mai 1931. La matière sort ennoblie de la fabrique, les travailleurs en sortent avilis. C'est une citation d'ailleurs approximative, que la dernière édition de l'Enracinement a corrigée dans la note 25, mais à la marge, à la marge. Voilà, je pense que ce point est évidemment important. Je vais essayer d'en dire un mot, c'est-à-dire sur des questions qu'on vient d'évoquer d'ailleurs, hein, sur le rapport entre les produits et la qualité des produits et la qualité du travail. Mais c'est clair que à l'usine, les travailleurs que Simone Veil fréquente à titre personnel dans sa chair, j'allais dire, à l'usine, les travailleurs ne sont pas chez eux. Je pense que chez elle, c'est le cas de le dire, c'est un problème tout à fait central. Ils sont, elle discute avec Bernanos d'ailleurs sur le fait que ce sont en quelque sorte des immigrés dans le monde de l'usine. Ils n'ont pas droit de citer ces étrangers à l'usine. Rien n'est si puissant chez l'homme, dit-elle, que le besoin de s'approprier, non pas juridiquement, mais par la pensée, les lieux et les objets parmi lesquels il passe sa vie et dépense la vie qu'il a en lui. La propriété juridique n'est qu'un des moyens qui procure un tel sentiment. Et c'est de ce sentiment que les hommes sont largement privés à l'usine, telle que la connaît Simone Veil dans les années 30. Cette expropriation-là qui empêche de laisser sa marque est corruptrice, si on reprend les termes de l'encyclique. Corruptrice, que d'ailleurs Simone Veil le reprend, puisque elle écrit « Il faut que la vie sociale soit... corrompu jusqu'en son centre, lorsque les ouvriers se sentent chez eux dans l'usine quand ils font grève et étrangers quand ils travaillent. Le contraire devrait être vrai. » Cette corruption de la société civile, d'une certaine manière, est une expérience avortée de la politique. Car le rapport entre gouverné et gouvernant, qui est au principe du rapport politique, se régénère ou dégénère, en premier lieu, là où se déroule la scène du travail subordonné. C'est une citation aussi de Simone Veil, dans les douleurs permanentes de la pensée clouée. C'est là d'où vient le poison. Là aussi où se trouve, pour Simone Veil, le contrepoison. Simone Veil montre toute son originalité dans cette phrase de 1936. On est au moment du Front populaire. Il est venu beaucoup de mal des usines. Et il faut corriger ce mal dans les usines. C'est difficile. Ce n'est peut-être pas impossible. J'ai l'impression que cette phrase trace notre propre programme d'aujourd'hui. C'est encore vrai aujourd'hui, car cette conception de la société civile a fait du chemin. Cette corruption, pardon. De la société civile a fait du chemin. L'encyclique de 31 opposait à cette dégradation des hommes la matière ennoblie des produits fabriqués. Le moins qu'on puisse dire, que c'est aujourd'hui que cette matière est loin d'avoir conservé son ennoblissement de l'époque. La matière ennoblie des produits fabriqués, même si on regarde ce qui touche à la marchandisation des services, est devenu un problème tout à fait sérieux, beaucoup plus grave d'une certaine manière qu'en 1931. On pourrait même dire qu'aujourd'hui, la corruption de la société civile empoisonne les produits eux-mêmes. Il serait bien sûr trop long, je ne vais pas le faire, d'énumérer le nombre de situations dans lesquelles nous nous trouvons où les matières fabriquées et les services vendus sont devenus un symptôme de la corruption de la société civile, si on suit le raisonnement de Simone Veil. J'en évoque seulement deux. On a évoqué d'ailleurs hier le fameux cas Volkswagen, qui au fond a transformé, pas seul, mais a contribué à transformer l'air que nous respirons en composé de dioxyde de carbone. Quand on y réfléchit, la fabrication de ce logiciel truqué qui a transformé 11 millions de voitures en sources polluantes, qui d'ailleurs ne touche pas que Volkswagen, c'est le cas le plus connu, on va dire. Ce sont eux-mêmes, quand on regarde la situation de l'intérieur, ce sont les développeurs, c'est-à-dire les ingénieurs eux-mêmes, qui ont été amenés à décider, pris dans des conflits de critères et des dilemmes professionnels gigantesques, de choisir de plutôt fabriquer un logiciel trompeur que de renoncer à fabriquer ces moteurs dans les délais impartis par la direction de l'entreprise. Ce n'est pas la direction de Volkswagen qui a décidé de truquer les moteurs. C'est l'organisation du travail qui empêche de dire non à des délais impraticables qui a précipité Volkswagen dans la crise que nous connaissons. Le deuxième exemple que je veux souligner, au moins mentionné, que vous avez peut-être suivi dans la presse récemment, c'est l'offensive de la société Monsanto qui fabrique le Roundup, c'est-à-dire le pesticide affecté de beaucoup de glyphosate. Ce pesticide qui est un pollueur majeur, un perturbateur endocrinien reconnu, et qui a fait l'objet de la part du Centre international d'études sur le cancer d'un diagnostic très clair, puisqu'il le considère comme génotoxique et un cancérigène probable, alors que ce produit est le produit phare de la firme, et pas seulement de la firme, mais utilisé aujourd'hui de façon absolument dominante dans le monde, y compris dans nos jardins les plus personnels. Or, cette firme Monsanto, aujourd'hui, s'adresse comme si elle était un État au Centre de recherche international sur le cancer, qui est une officine, ou une office plutôt, de l'OMS, en demandant la dissolution du Centre international sur le cancer. Alors évidemment, on peut multiplier les discussions pour savoir comment les États peuvent s'opposer à ces firmes qui, au nom de la société civile, d'une certaine manière, se comportent comme des États. Mais la question qui se pose, c'est de savoir comment, dans la société civile industrielle, des droits nouveaux peuvent permettre de dire non à ces activités de travail polluantes. Une nouvelle encyclique semble s'imposer, d'une certaine manière, qui n'hésiterait pas à dresser l'inventaire des libertés qu'une certaine société civile du travail prend avec nos vies, alors qu'on la donne volontiers, surtout en ce moment, comme une alternative à l'action politique. En fait, les transformations actuelles du travail le rendent de plus en plus civique, ce travail, intrinsèquement plus sensible directement au conflit de critères autour de sa qualité, au carrefour de la santé, de la valeur des produits et des services. L'efficace ou pas, le juste ou l'injuste, le bien ou le mal sont descendus dans les dilemmes de métier. Le travail et les obligations qu'il convoque deviennent toujours plus politiques directement, au sens évidemment profond du terme. Pourtant, l'organisation du travail autour de ces conflits de critères se veut toujours plus neutre, politiquement neutralisée. Ça aurait pu juste de dire les choses ainsi. Ces conflits de critères autour de la qualité du travail n'ont pas droit de cité dans l'entreprise et l'organisation. Pensez de parer d'ailleurs cette organisation et cette entreprise de toutes les vertus, alors même que c'est là le lieu même de l'inachèvement de la démocratie politique, le lieu d'une interruption volontaire de la police, on pourrait dire, d'une certaine manière, le refoulé qui menace la politique. Et ce, pour une raison profonde, c'est qu'au travail, l'activité et la subjectivité sont toujours les objets impossibles d'un contrat de droit privé. C'est là que le ressort de la civilité démocratique est brisé. là qu'elle est corrompue jusqu'en son centre, pour reprendre les formules de Simone Weil. Là où s'éprouve maintenant de plus en plus, au détriment du produit fabriqué et du service rendu eux-mêmes, le privilège des privilèges, celui de l'employeur à décider de façon discrétionnaire de l'objet de l'activité et du travail. Le travail mal soigné ouvre la porte sur un vide civique, un objet politique incivilisé, sans sujet politique institué. Avec le travail subordonné, l'entreprise figure une collectivité aveugle dont la neutralité politique est paradoxalement un modèle rêvé pour un pouvoir organisé autour de la requalification des conflits en problèmes simplement techniques. On comprend que pour Simone Weil, il s'agisse moins de faire revenir la société civile dans l'État que, au contraire, de pousser ce dernier vers une réforme institutionnelle de la société civile, pour parler comme Bruno Trentin. Vers l'institution d'un droit au conflit de critères, vers l'institution d'une nouvelle génération de droits civils. Mais là où est l'originalité de Simone Weil, c'est qu'elle ne se paye pas de mots. Ce n'est pas le régime de propriété qui la retient. C'est le régime de travail. C'est lui seul qui peut affecter la condition ouvrière au point de provoquer un réenracinement contre l'ennui, l'humiliation et le refoulement de la pensée. Elle pense que le régime d'entreprise peut faire reculer l'oppression sans attendre la fin d'une exploitation qui, d'ailleurs, ne garantit rien quant au recul de l'oppression, la fin de l'exploitation. Ce régime de travail dépend des ouvriers eux-mêmes. Contre les illusions de la psychotechnique, qui ont d'ailleurs été indiquées et dont vous comprendrez qu'elles me concernent particulièrement, Simone Weil n'hésite pas à écrire la phrase suivante, qui, dans une enceinte comme celle-là, ne manquera pas de surprendre et fera sûrement discuter. Les travailleurs ne doivent donc pas avoir confiance dans les savants, les intellectuels, les techniciens. Ils peuvent prendre leurs conseils, mais ne doivent jamais compter que sur eux-mêmes. Page 326 de la Condition ouvrière. C'est écrit à la suite de sa critique du taylorisme en 1937, après ce constat. C'est le véritable problème le plus grave qui se pose à la classe ouvrière. Trouver une méthode d'organisation du travail. Le problème, on n'a même pas commencé à le résoudre, puisqu'il n'a même pas été posé. De sorte que si, demain, nous, dit-elle, dont vous savez bien qu'elle avait rejoint l'activité syndicale, ce « nous » est très intéressant, de sorte que si, demain, nous emparions des usines, nous ne saurions pas quoi en faire et nous serions forcés de les organiser comme elles le sont actuellement après un temps de flottement plus ou moins large. C'est dans les usines seulement qu'on peut arriver à trouver la méthode, peu à peu, à imaginer un système de ce genre, un système de méthode alternatif. Pour résister à l'hypnose des chiffres, c'est son vocabulaire, qui nous contamine, il y faut de la méthode. Je pense que chez Simone Weil, cette question est extrêmement importante. Il y faut de la méthode, alors même que l'oppression nous intoxique, comme une drogue dure. La question, pour l'instant, écrit-elle, au patron des usines rosières avec qui elle dialogue en mars 1936, est de savoir si, dans les conditions actuelles, on peut arriver, dans le cadre d'une usine, à ce que les ouvriers comptent et aient conscience de compter pour quelque chose. Vous voyez que c'est un objectif à la fois mesuré et grandiose. Ce point n'est pas anecdotique ou la marque d'un intérêt personnel daté, puisque en 1934, 2 ans avant, le propos est une véritable adresse aux dirigeants du mouvement ouvrier d'alors, et un vrai défi à la vulgate marxiste incompatible avec une action méthodique de transformation. On sait combien Simone Veil ne tarit pas d'éloges sur l'analyse marxiste de l'oppression, elle-même, et pas seulement de l'exploitation. Pourtant, elle n'hésite pas à écrire. Avant de lancer les ouvriers dans l'aventure d'une révolution politique, il faut chercher s'il existe des méthodes susceptibles de les amener à s'emparer silencieusement, graduellement, presque invisiblement, d'une grande partie de la puissance sociale réelle. Il faut ou appliquer ces méthodes, si elles existent, ou renoncer à la révolution ouvrière, si elle n'existe pas. Mais si évidente que soit cette conséquence, c'est toujours Simone Veil qui parle, Marx ne l'a pas vue. Et cela parce qu'il ne pouvait pas la voir sans perdre ce qui était pour lui sa raison de vivre. Pour la même raison, ses disciples, soit réformistes, soit révolutionnaires, ne risquaient pas de le voir. C'est pourquoi on peut dire, sans crainte d'exagérer, que comme théorie de la révolution ouvrière, le marxisme est un néant. Sans exagérer, et peut-être une formule exagérée elle-même, mais on voit bien que non sans excès, bien sûr, c'est tout l'engagement pratique de Simone Veil qui est là. Nous sommes en 1934 et 1936, au moment du Front populaire, lui donnera encore l'occasion de faire l'expérience de cet obstacle. On peut trouver que ces critiques d'un marxisme regardant la bourgeoisie, je vais faire quelques citations intéressantes de Simone Veil, regardant la bourgeoisie comme une divinité mystérieuse et maléfique. Ces critiques qui transforment la révolution en mot magique et destiné à se venger du passé, l'esprit de vengeance. Ces critiques de l'éloquence messianique qui confie aux ouvriers un rôle rédempteur prédestiné. Ces critiques de la religion du progrès s'offrant d'ailleurs aux travailleurs, offrant aux travailleurs la providence moderne d'une histoire qui fait pour eux le plus gros de l'effort. On peut penser que ces critiques ont vieilli. Je crains qu'au regard de l'histoire réelle, à l'écoute du verbalisme résurgent et prophétique contemporain, ce passé poursuive son travail de sape dans le monde du travail lui-même. Même si les risques d'impérialisme ouvrier, qu'elle critiquait si souvent, ont beaucoup reculé. Pourtant, c'est déjà en 1937 que Simone Veil pouvait écrire. Les ouvriers peuvent obliger la direction d'une usine à leur reconnaître des droits sans priver les propriétaires de l'usine ni de leur propriété, ni de leur profit. Et réciproquement, ils peuvent être tout à fait privés de droits dans une usine qui serait une propriété collective. Vous voyez l'enjeu de cette question-là. Ces deux voies ont été expérimentées à grande échelle et surtout ont fait l'objet d'analyses poussées qui donnent de la matière dans les deux cas pour éprouver les deux hypothèses de notre auteur. En 1977, Rodolphe Barrot a montré que la crise du travail est la seule possibilité d'expliquer la disparition de la RDA. Ce fut l'expérimentation à grande échelle et la vérification de la deuxième hypothèse de Simone Veil. Pour Rodolphe Barrot, je rappelle qu'il était ce dissident allemand qui a mal fini d'une certaine manière, je rappelle qu'il était directeur, en tout cas responsable du service d'organisation du travail dans un grand combinat de Berlin-Est. Pour Rodolphe Barrot, la propriété collective des usines en RDA a aggravé l'oppression, car, et le diagnostic ici de Simone Veil est précieux, car l'oppression, à la différence d'une usine capitaliste, comme le prédisait Simone Veil, sous les ordres d'un trust d'État, non seulement l'usine, mais la police, l'armée, les prisons, tout est entre les mêmes mains. L'inégalité dans le rapport des forces n'est donc pas diminuée, mais aggravée. Pour Rodolphe Barrot, l'oppression industrielle et sociale s'est traduite par un sous-développement programmé des individus, le développement du temps de travail psychologiquement improductif, abstrait, dans lequel la diminution du travail, de l'expérience, la division du travail, combat le développement des capacités et de l'expérience vécue. Et fabrique, je trouve cette critique très consonante avec Simone Veil, et fabrique l'indifférence. Mais l'État, propriétaire, se sert alors de cette indifférence pour se développer lui-même. L'État propriétaire recycle l'énergie refoulée en compensation factice et fantasmée. Cette énergie inemployée, combattue, excédentaire, est dérivée et gaspillée une deuxième fois en comportement subalterne, apathie, indifférence devant les affaires publiques, mépris du travail bien fait, tir au flanc systématique, chute du professionnalisme et consumérisme factice. Voilà ce qui, d'une certaine manière, a miné de l'intérieur, à partir du travail, toute la bureaucratie de l'État. Voilà qui confirme la deuxième hypothèse de Simone Veil. La deuxième voie, je rappelle, les ouvriers peuvent compter ici et maintenant, à peu près au même moment, elle a été développée entre 65 et 75. Elle a été expérimentée à une échelle de masse en Italie, et c'est Bruno Trentin lui-même qui cherche à nous faire comprendre et qui cherche à nous transmettre comment elle a été expérimentée. Compter tout de suite, sans avoir la propriété de l'État. Bruno Trentin, dans deux ouvrages majeurs, dont l'un a été édité à l'initiative d'Alain Supiot, qu'il faut remercier pour la portée de cette initiative. Bruno Trentin a écrit La Cité du Travail et un deuxième livre qui a été publié aussi en français qui s'appelle Le Travail et la Liberté, et qui font de lui un témoin majeur de ce qu'on a appelé dans cette époque-là le syndicalisme des conseils qui aurait tellement intéressé Simone Veil, dont il a été, Trentin, un protagoniste direct avant d'être en 88 élu secrétaire général du principal syndicat italien. Un témoin et acteur majeur des méthodes d'action, les choses sont précises, des méthodes d'action qui ont contesté l'hégémonie culturelle du management scientifique taylorien. Et expérimenté, ce syndicalisme des conseils, à grande échelle, des libérations dans la condition civile et politique du travailleur subordonné. Sans pouvoir développer ici, on ne peut que souligner, en citant Trentin, l'importance qu'a prise à l'époque à la Fiat et dans la métallurgie italienne, mais pas simplement dans la métallurgie, la question de la protection de la santé physique et psychique contre toute forme de compensation salariale et de monétisation de la dégradation de la santé, jusqu'à se traduire, dans les faits, dans de nombreuses usines, par la pratique d'une véritable autoprotection de la santé individuelle et collective, qui sera favorisée par la rencontre entre les travailleurs organisés et le monde de la science médicale, et qui imprimera d'ailleurs un nouveau cours à la recherche en médecine du travail. Une autre pratique de la psychologie du travail elle-même, et vous comprendrez que ça m'aille directement au cœur, une autre pratique de la psychologie du travail elle-même y est née, dont l'ouvrage de référence, même aujourd'hui en France, reste celui d'Ivar Odon, Redécouvrir l'expérience ouvrière, dont nous avons d'ailleurs hérité ici à Paris. Le plus important ici est que l'ouvrage de Trentin comporte plus de 30 pages consacrées à l'aventure intellectuelle de Simone Veil. Mieux, l'auteur insiste sur le fait que les conseils de délégués d'usine qui ont déplacé le barycentre du syndicalisme en dehors des schèmes de la redistribution et de l'indemnisation, loin donc d'un syndicat de la réparation et de la compensation monétaire à l'oppression, et qu'en ont fait un sujet politique de ce syndicat, à part entière, n'aurait pas existé sans la contamination réciproque de la tradition ouvriériste marxiste et de la tradition chrétienne, dans laquelle, je cite, « la défense de l'intégrité physique et morale de la personne humaine acquérée contre la machine tayloriste, une potentialité subversive de l'ordre établi ». Le personnalisme chrétien, moins celui d'ailleurs de Maritain que de Lacroix, découvert en lisant Simone Veil, a, dit Trentin, secoué une tradition marxiste immobilisée dans l'attente d'un changement étatique, regardé comme le préalable indispensable d'une transformation du travail subordonné. Des droits civils nouveaux ont été acquis. Des processus décisionnels inédits se sont affirmés pendant une dizaine d'années. qui ont fait reculer la division du travail et remis la pensée ouvrière à l'origine des choses. Cette expérience hétérodoxe est allée jusqu'à questionner la sacralité des prérogatives du chef d'entreprise, en lui contestant le privilège d'être le seul à pouvoir planifier l'offre, en cherchant donc à faire participer les salariés directement, non pas au capital, mais à la décision, jusqu'à donc tenter de peser sur l'affectation des profits engendrés par le travail. En ce sens, regarder la négociation salariale non pas comme un simple moyen de partage des bénéfices, qui de fait repose sur un rapport subalterne à la propriété. Bruno Trentin, après un examen serré de l'apport de Simone Veil, conclut qu'entre les deux guerres mondiales, on a vu le triomphe de la rationalisation tello-fordiste, épaulée par les dédommagements de l'État social. Il y avait donc d'autres voies à tenter. Ce fut de nouveau le cas dans les années 70, et c'est encore le cas maintenant. C'est en tout cas sa thèse. Mais il faut faire les comptes. Faire ses comptes avec ce qui oppose le monde du travail au monde du travail lui-même. Car les attaques contre cette expérience hétérodoxe sont venues d'abord de l'intérieur, avant même la résistance des employeurs. Elles se sont manifestées dans les réflexes d'autodéfense des appareils politiques cherchant à rétablir la division du travail entre le social et le politique. En usant et abusant de l'argument selon lequel le syndicat n'a pas à se salir les mains. Les appareils politiques de l'État social, qu'ils soient d'ailleurs de gauche ou de droite, ont cherché à ramener sur les rails l'initiative ouvrière. À contrecarrer, l'action syndicale visant un contrôle des investissements industriels et même la discussion sur la qualité des produits fabriqués. La société civile n'intéresse l'État que lorsqu'elle ne change pas elle-même. Autrement dit, la société civile n'intéresse l'État que lorsqu'elle est neutralisée. Pour Bruno Trentin, c'est une défaite que ce respect suspect des gouvernants pour l'autarcie syndicale. C'est une défaite pour la pensée que cette liberté ravalée dans l'action des forces sociales subalternes. Il y a, pour reprendre l'initiative, c'est son idée, c'est, je crois bien, l'esprit même de son livre, trois leçons de Simone Veil que Bruno Trentin, finalement, met à l'agenda. Premièrement, la liberté doit regarder en face la nécessité. Et c'est sa limite et son moteur. Et on y trouvera ici un écho avec Rudolf Barrow qui a montré à quel point l'ambiguïté de Marx dans la conception des rapports entre nécessité et liberté est sans doute aussi l'une des matrices de l'échec des transformations que le marxisme a cru pouvoir soutenir. Deuxième idée, cette idée que l'organisation du travail doit être la combinaison, et c'est une idée forte quand on sait à quel point Simone Veil combattait l'oppression, l'organisation du travail est la combinaison de l'ordre et de la liberté. Si un travail non servile a pour objet la vraie nécessité, il est inévitable et convenable qu'il y ait dans le travail de la monotonie et de l'ennui. Simone Veil, Conditions ouvrières, page 348. Comme dans un concerto de Bach, comme dans le rapport entre le passé et l'avenir, le critère de la liberté, c'est le changement de statut de la répétition. Si l'expérience répétée d'objet peut devenir moyen d'une autre expérience à vivre, la beauté de rupture du rythme contre la cadence assure la transformation et le plaisir. À l'opposé d'une répétition vaine, l'expérience évite alors de mourir d'inanition, pour reparler comme Dewey. Cette marche du connu à l'inconnu est une récréation affective. L'entrée dans l'inconnu se fait à l'aide du déjà connu, qui y gagne une vie nouvelle. Et troisième idée, très forte, je pense, de Simone Veil, qui fait partie finalement du patrimoine de ceux qui veulent encore changer quelque chose, l'activité politique elle-même est un travail. On l'a décrite comme une technique d'acquisition et de conservation du pouvoir, écrit-elle. Mais le piano ne fait pas la sonate. Et l'activité politique est comparable avec la composition d'une sonate. Enracinant d'ailleurs une conception simultanée sur plusieurs plans, comme tu as été souligné tout à l'heure. Une somme d'énergie qui fait passer l'action enfermée dans le mobile qui l'a produite à un autre mobile et à une autre action, par les fonctions de la parole. Et cette dernière réveillée réveille et développe les ressources profondes situées au secret de chaque âme. Tout le contraire, donc, des tentatives de verbalisme qui peuvent parfois servir de substitut à l'action politique méthodique. Avec Bruno Trentin et les conclusions qu'il tire du travail de Simone Veil, je pense qu'on peut réfléchir à nouveau frais sur la libération du travail. Merci.
Merci beaucoup d'avoir fait ainsi, après avoir fait dialoguer Simone Veil avec André Gors, c'était avec Bruno Trentin. Donc nous avons une dizaine de minutes pour une discussion. Est-ce que vous souhaitez...
Ben, merci à Yves-Claude de cette communication qui révèle effectivement qu'il y a de quoi puiser chez Simone Veil et par le biais de Bruno Trentin, vous l'avez bien montré aussi. Je me posais la question en entendant, au fond, les trois leçons de Simone Veil. C'est une question un peu bizarre, mais je me disais, est-ce qu'il n'est pas trop tard ? Déjà, il y avait d'autres voies, en effet, que celles qui ont été suivies par la gauche, on va dire, dominante. Bon, mais alors, est-ce qu'il est encore temps de s'appuyer sur ces trois leçons ? Et comment ?
C'est une question à laquelle je n'aurais pas l'autocuidance de répondre seul. Hein. Mais quand même, je prends le risque de le faire à ma manière. Je crois qu'il est toujours temps. Je crois qu'il est toujours temps. C'est d'ailleurs la thèse de Bruno Trentin dans ce livre qui s'appelle « La liberté vient d'abord ». Enfin, en italien, ça s'appelait comme ça. Il a été traduit avec une légère modification. Sa thèse essentielle, c'est que, d'une certaine manière, les transformations du travail, y compris les transformations techniques, numériques et informatiques du travail, mettent à l'agenda et mettent sur la table... La force de la créativité comme condition de l'efficacité. Tout à l'heure, je disais la qualité du travail est devenue, d'une certaine manière, la seule chance de survie de l'humanité. On voit bien avec les produits extrêmement dangereux qui sont devenus, comment dirais-je, la référence de cette société civile industrielle corrompue. Au fond, pour Trentin, et je pense qu'on peut reprendre son idée ici, c'est du cœur du travail industriel dégradé qu'au nom même de l'efficacité et même de la productivité, le problème de la qualité du travail revient comme une référence majeure, comme une force de rappel. Et évidemment, tout le problème, c'est d'arriver à transformer cet objet de la qualité du travail en institution d'un conflit de critères sur ces situations-là. Alors, du coup, aucun automatisme. Comme dans les années 30, comme dans les années 70, la bataille peut encore être perdue. Mais elle sera perdue par ceux qui la livreront mal.
Oui, d'ailleurs... Trentin a réactivé une opposition qui était présente chez Gramsci, puisque c'était aussi un grand lecteur de Gramsci, entre le transformisme et le réformisme. Et c'est cette distinction qui éclaire ce que Yves Clos nous a expliqué sur la politique comme travail, c'est-à-dire le réformisme est une politique comme travail, en ce sens que comme un travail réellement humain, elle consiste à confronter à la réalité d'une situation une limite idéale, qui est une notion qu'elle emploie, donc d'avoir d'abord un projet de quelque chose qui n'est pas encore là, et puis à partir de ce projet, on se confronte au réel, alors que le transformisme est simplement l'art de s'adapter à l'environnement dans un processus plus darwinien. Cette distinction s'est révélée de... Enfin, Trentin l'évoque pour critiquer justement cet alignement de la gauche politique et syndicale sur... je me souviens, ça doit être dans la Libertà. Dans La Liberté viendra d'abord. C'est une époque où il siégeait, c'était à la fin de sa vie, au Parlement européen. J'ai eu quelques conversations avec lui, il me disait, tu ne peux pas imaginer le mot que ne se porte plus d'entendre les députés, c'est le mot travail. Donc il s'aligne. Donc cette espèce d'alignement sur la doxa le déprimait profondément. La distinction transformisme-réformisme est très précieuse pour le comprendre. J'ai trouvé aussi tout à fait passionnant et très éclairant ce que vous dites sur l'entreprise comme école de la technicisation, justement. À partir du moment où on ne pense pas à l'entreprise comme comme collectivité de travail, c'est une école de la soumission à une technique qui se prétend dépolitisée. Et comme la tendance aujourd'hui est de penser les relations politique sur le modèle de l'entreprise, puisque c'est quand même la doxa, il faut gérer l'État comme on gère une entreprise. C'est la doctrine du New Public Management. Ça s'est traduit dans des évolutions institutionnelles dans notre propre système de formation. Pour évoquer Sciences Po, dont il y avait ici d'éminentes représentantes, c'est installé l'idée que gérer les entreprises, gérer l'État, c'est une même technique, et donc on doit former dans un même endroit, selon les mêmes méthodes. Alors, on voit bien qu'en ligne de fuite, c'est la démocratie qui est condamnée, parce que si un pays n'arrive plus à équilibrer ses comptes comme il doit le faire dans une entreprise, comme dans le cas grec, il n'y a évidemment pas de raison de laisser le peuple gérer des affaires. Il faut nommer un administrateur provisoire, judiciaire. Alors, on ne peut pas les dissoudre, mais on peut gérer, comme le fait la Troïka actuellement dans le cas grec. Donc, on voit cette espèce d'extension à la sphère politique du modèle de management de l'entreprise. Alors, ce n'est pas un phénomène entièrement nouveau, parce que, justement, il était déjà présent dans le léninisme, qui entendait concevoir la société politique sur le modèle de l'efficacité à la Taylor à l'époque. On disait maintenant, c'est plus à la Taylor, c'est sur le modèle de la direction par objectif. Donc, ces réflexions sont extrêmement précieuses. D'ailleurs, sur ce que vous avez évoqué sur l'affaire Volkswagen, elle est un bon exemple, là aussi, des impasses de la gouvernance par les nombres, dont on avait déjà des manifestations sous l'emprise du Gosplan, ce qui était une forme de gouvernement par les nombres. Il fallait remplir les objectifs du plan, et si ces objectifs n'étaient pas atteignables, il y avait deux issues, qui étaient soit la dépression, soit la fraude. Si on vous disait il faut produire 1 million de bottes et vous aviez du cuir pour en faire 600 000, ben vous faisiez que des bottes pour enfants. Voilà, alors on trouvait que des bottes pour enfants sur les... et on avait rempli les objectifs du plan. Après le management term que nous avons connu, la fraude est un phénomène qui s'installe, et qui s'installe non seulement dans les usines, mais aussi dans le monde de la recherche. On sait que, par exemple, certaines disciplines sont plus affectées que d'autres, mais le nombre des fraudes dans la production scientifique, puisqu'il faut atteindre des objectifs en termes de publication, etc., ça peut être tentant pour le biologiste avec Photoshop d'améliorer. Bon, il y a eu des cas récents, des scandales. Donc, au point que le ministère a créé une agence qui se met en place pour essayer de vérifier sur les fraudes. Donc ce système engendre lui-même de non-qualité du travail expose lui-même les organisations et les personnes à ce qu'on peut appeler la limite catastrophique de ce type de gestion.